L'enjeu principal, c'est vraiment l'évolution politique et l'évolution sécuritaire en Afghanistan. D'autres sujets qu'on aurait pu imaginer polluer un petit peu cette rencontre, comme les tensions entre l'Iran et les États-Unis, n'ont pas véritablement fait dériver le projet. Donc en fait, on s'est retrouvé dans une situation qu'a voulu l'Iran depuis un certain temps. C'est l'Iran qui a beaucoup poussé à ces réunions tripartites. Le but est de pousser aussi l'Afghanistan et le Pakistan à se parler et de gérer la situation sécuritaire au niveau régional. Parce que comme on a pu le remarquer à la fin du sommet, il y a toujours une critique sans nommer les grands États extérieurs, mais une critique disant que, en fait, si l'Afghanistan est dans cette situation aujourd'hui, c'est à cause de puissances extérieures à la région. Et ce sommet vise à essayer de gérer les problèmes régionaux entre États directement concernés. Et c'est vrai que l'Iran, comme le Pakistan, sont les premiers États à avoir souffert de la guerre en Afghanistan, d'abord contre les Soviétiques, puis la guerre civile, puis la guerre menée par les États-Unis. Donc en fait, ce sont les premiers concernés qui essayent de gérer la situation. Et l'idée principale de ce sommet, c'était de réussir à gérer l'avant et l'après 2014 d'un point de vue sécuritaire en Afghanistan.
Et qu'est-ce qui a été décidé concrètement?
Concrètement, ce à quoi on est arrivé, c'est surtout au fait que ces États se parlent de plus en plus. On parle d'un rapprochement économique, de plus grandes discussions diplomatiques. C'est assez cryptique, ça ne va pas très très loin. Beaucoup de journalistes pakistanais ont mis en avant le fait qu'en fait, on n'irait pas forcément très loin pendant ce type de sommet. Mais en fait, ce n'est pas le but de ces sommets. Ces sommets ne vont pas permettre de régler tous les problèmes d'un seul coup. Par contre, ce qui les amène à faire, c'est arriver à pousser des États qui se sont considérés comme des ennemis à la discussion et à une discussion constructive. Et ça, c'est déjà beaucoup. Quand on regarde la situation entre l'Iran et le Pakistan avant 2011, elle était détestable, notamment avec l'Iran qui accusait le Pakistan de protéger des djihadistes sunnites, peut-être télécommandés de leur point de vue, en tout cas par les États-Unis, pour déstabiliser l'Est iranien. Du côté des Pakistanais, depuis la révolution de 1979, et entre autres parce qu'ils se considéraient comme des alliés des États-Unis, il y avait une peur de la menace roméniste. Il faut se rappeler que le Pakistan, c'est la deuxième nation de musulmans chiites après l'Iran en termes de nombre. Même si les chiites ne sont qu'une minorité au Pakistan, ils sont quand même assez importants. Et les deux pays ont eu des clients différents en Afghanistan. L'Iran, c'est le pays qui a soutenu l'Alliance du Nord. Il faut bien savoir que les Américains ont dû s'appuyer sur les Iraniens, pas sur les Russes, mais sur les Iraniens, pour pouvoir parler à Massoud. Massoud avait une très grande confiance dans les Iraniens, une confiance très moyenne dans les Russes et aucune confiance dans les Américains à la fin des années 90. Donc sans les Iraniens, pas de relation forte avec l'Alliance du Nord, pas de guerre gagnée contre les talibans. Et du côté des Pakistanais, bien sûr, il y a toujours eu ce lien avec la population pachtoune, donc avec les talibans, ennemis depuis 20 ans des populations tadjiks et ouzbeks. Donc on a eu des États qui se sont opposés autour de l'Afghanistan, qui a été une sorte de champ de bataille interposé entre deux puissances moyennes qui voulaient de l'influence. Aujourd'hui, on arrive à des États qui réussissent à se parler, qui réussissent à briser la glace. Ça n'a pas été simple. Pendant cette réunion, notamment, on a pu constater que Hamid Karzai pouvait s'énerver très vite face aux Pakistanais. Il représente cette exaspération afghane face aux Pakistanais accusés de faire un double jeu. Bon, encore une fois, dans la zone, tout le monde joue un double jeu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On parle à ses ennemis et on parle à ses amis, sachant que certains de ses ennemis peuvent être aussi des ennemis de personnes que soi-même on n'apprécie pas. C'est comme ça dans la région, les Iraniens, les Pakistanais, les Afghans, les Russes font tous la même chose dans cette partie du monde. Mais en fait, du côté des Afghans, il y a une certaine exaspération, c'est vrai. Les Afghans, en même temps, préfèrent dire que tout le mal vient du Pakistan plutôt que de dire qu'une partie des problèmes de l'Afghanistan viennent de choix de certaines factions politiques en Afghanistan elles-mêmes. Encore une fois, c'est logique. On préfère toujours critiquer la personne à l'extérieur que soi-même. Donc il y a eu des tensions entre Afghans et Pakistanais pendant ce sommet, Mais malgré tout, ils se parlent. Et à la fin, on a réussi à déboucher sur une proclamation commune et sur un désir de continuation du dialogue. Et dans cette région du monde, c'est déjà beaucoup.
Le président Ahmadinejad avait prôné donc des solutions régionales aux problèmes régionaux. On est sur la bonne voie aujourd'hui.
On est clairement, en tout cas, dans le désir d'aller dans ce sens. Et comme chacun des trois États a un véritable intérêt à la chose, il y a de bonnes chances de voir un impact politique de ce type de rencontre. L'Iran a besoin de la paix à l'Est et une paix, si possible, sans les Américains, avec des troupes de l'OTAN totalement parties. Il y a un désir aussi, en gros, que l'Afghanistan soit stabilisé pour éviter tous les problèmes qui leur tombent dessus à cause de l'Afghanistan. Le trafic de drogue a fait des ravages en Iran, ce sont les premiers à en souffrir. Nous sommes les deuxièmes à en souffrir en tant qu'Européens. Toute l'héroïne qu'on peut trouver à Paris ou à Londres, c'est de l'héroïne qui est fabriquée dans la FPAC. Donc on en souffre beaucoup, mais les Iraniens en souffrent énormément. L'Est du pays a vu une mafia très importante se développer. Donc l'Iran veut pouvoir gérer ce problème. Les Pakistanais aussi en ont assez de tous les contre-coups de leur propre politique afghane. Certes, ils gardent une influence sur la région, mais il y a eu les talibans pakistanais, il y a eu les djihadistes qui se sont retournés contre eux, il y a eu des attentats terribles en 2007, 2008, 2009. Ce pays a souffert de la guerre contre le terrorisme énormément, et beaucoup de personnes dans les élites militaires ou civiles au Pakistan ont juste envie de vivre en paix. Donc ils ne veulent plus entendre parler d'un Afghanistan déstabilisé. Et bien sûr, les Afghans eux-mêmes aimeraient vivre en paix, stabiliser qui que ce soit au pouvoir, avoir une certaine liberté et en même temps surtout pouvoir vivre, sans avoir peur en se réveillant tous les matins. Donc ces trois États ont un vrai intérêt commun à la stabilisation. Et il est de l'intérêt de la communauté internationale de les laisser faire. Peu importe ce qu'on pense des services secrets pakistanais, du régime iranien, de Karzai est corrompu ou pas corrompu, ce sont les premiers à souffrir de la situation en Afghanistan. Laissons-les essayer de stabiliser les choses par eux-mêmes. On a pu très peu faire en 10 ans sur place. Il est donc totalement dans l'intérêt de la France, des Européens et dans une certaine mesure des États-Unis de voir cette zone se stabiliser par un travail entre eux.
Alors, les relations entre le Pakistan et les États-Unis ne sont pas très bonnes actuellement. Quelles relations ces trois pays entretiennent-ils avec le monde occidental aujourd'hui ?
Quand on regarde le Pakistan, une des choses qui est sortie justement de ce sommet, c'est un appel du président afghan, du président Karzai, à permettre à nouveau le flot de matériel pour l'OTAN à passer via le Pakistan. On sait que cette possibilité a été fermée suite à la mort de ces 25-26 soldats pakistanais tués par l'OTAN, par erreur semble-t-il, il y a maintenant 2-3 mois. Et en effet, ça serait plutôt une bonne chose pour les Occidentaux. Les Pakistanais savent qu'ils ont une relation difficile avec les États-Unis, moins difficile avec les Européens, mais en fait, du point de vue européen, le seul pays qui a une politique vraiment active dans la région, qu'on retrouve sur place à tous les niveaux de la société, ce sont les Allemands. Les autres Européens sont plutôt à la traîne de ce point de vue-là, et on peut remarquer à côté de ça une belle action politique de la Commission européenne. Mais au-delà des institutions européennes et de l'Allemagne, les Européens sont plutôt négligeables, mais globalement appréciés. Relation plus difficile avec les États-Unis, mais en même temps, les Pakistanais ont besoin des Américains, entre autres financièrement. Ils ont peur, en fait, toute la politique pakistanaise est basée non pas sur de l'anti-américanisme, même si au niveau de la population, il y a un ras-le-bol de la politique étrangère américaine, mais en fait, surtout, ce qui domine la politique étrangère pakistanaise, c'est la peur. La peur d'être utilisé comme des pions par les Occidentaux, puis d'être abandonné, la peur de voir tous les problèmes régionaux leur retomber dessus, la peur de ne plus recevoir une aide financière dont le pays a énormément besoin. Du côté de l'Afghanistan aussi, il y a des rapports ambigus avec l'Occident. Plus d'une fois, on a entendu parler d'Afghans qui n'étaient pas talibans, qui n'étaient pas idéologisés plus que ça, et qui de temps en temps faisait le coup de feu contre les troupes de l'OTAN quand il voyait une petite bataille rangée avoir lieu dans un coin de vallée quelque part en Afghanistan. Donc il ne faut pas imaginer que les Occidentaux, parce que l'OTAN ferait un certain travail en Afghanistan, seraient véritablement acceptés. Le travail n'a pas été toujours bien fait. Les raids de nuit, notamment, qui faisaient que des soldats occidentaux débarquaient dans les maisons et violaient l'intimité d'une famille, surtout dans un milieu pachtoun très traditionnel, ça a laissé des traces. Et du côté iranien, bien sûr, il y a aussi cette ambiguïté. Il ne faut pas imaginer une vision anti-occidentale trop poussée. Derrière le régime, derrière les grands discours, il y a des diplomates, il y a des hommes d'État qui sont avant tout des nationalistes persans, qui sont avant tout dans une logique défensive de protection de leurs intérêts. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que cette réunion est importante aussi pour les Occidentaux et en particulier pour les Européens qui ne sont pas... Il n'y a pas un anti-européanisme en Iran, en Afghanistan ou au Pakistan. En fait, ces États essaient de régler leurs problèmes entre eux. L'Europe, avec les États-Unis, dépense énormément d'argent et se fait mal voir parce qu'elle essaye de régler les problèmes de la région à la place des gens de la région. Nous avons en face de nous des gens qui ne sont en fait pas anti-occidentaux. Donc on peut utiliser cette situation à notre avantage. 2014 va être une année très importante. Il est essentiel de pouvoir travailler avec les gens de la région pour réussir à obtenir une stabilité en Afghanistan. La stabilité ne sera pas forcément parfaite. Elle est essentielle pour nos intérêts, pour la lutte contre le trafic de drogue venant de la région et pour la lutte contre le terrorisme transnational venant de la région. On est allé fin 2001 en Afghanistan pour ça, pour lutter contre Al-Qaïda. Il ne faut pas perdre de vue cet objectif. Et pour l'instant, parce qu'on l'a trop perdu de vue et en même temps parce qu'on n'a pas aidé l'Afghanistan à se relever, Al-Qaïda et les groupes transnationaux qui peuvent déstabiliser des zones qui sont très importantes pour nous géopolitiquement sont présents plus que jamais. Il ne faut pas tomber dans le piège de ce discours qu'on entend très souvent, de la séparation entre les gentils talibans et les méchants d'Al-Qaïda. Quand vous avez combattu côte à côte avec des gens pendant 10 ans, voire plus pour ceux qui ont vécu la guerre contre les soviétiques, vous ne voyez pas un djihadiste transnational qui veut déstabiliser l'Égypte, l'Asie centrale ou que sais-je. Vous voyez un compagnon d'armes. Et ça crée des liens qu'on ne devrait pas sous-estimer.